Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Au micro, Lievin Bouinga. D'abord, l'ossature de ce journal. Goma, toujours en proie à une insécurité grandissante. Elle est marquée par des enlèvements et une forte criminalité. Vous le verrez dans ce journal, même les bébés ne sont pas épargnés. Commission permanente à l'Assemblée nationale. De grandes discussions s'opèrent dans les couloirs du Palais du Peuple entre partis de l'Union sacrée. Des détails dans ce journal. Notre invité est le rédacteur en chef de la Fondation Hirondelle, Christian Moulumba Kalumba. Cette fondation privée suisse vient d'organiser une formation des journalistes et acteurs de la société civile sur la lutte contre la désinformation et le discours de haine à Bounia en Ituri. Nous en parlons avec lui à la fin de ce journal. Encore une fois, bonjour, je le disais à l'instant, Goma de plus en plus asphyxiée par l'insécurité grandissante, marquée par la criminalité et les enlèvements. Dans la commune de Karisimbi, par exemple, il est impossible de passer une nuit sans entendre des coups de feu nourris, occasionnant des morts et des blessés. Pire encore, dans la nuit de dimanche à ce lundi 30 septembre, un bébé âgé d'une année a été tué par une balle perdue lors d'une incursion dans sa famille au quartier Mayengo. Conséquence, cet incident vient raviver l'émotion et la colère au sein des habitants de Goma. Le point avec Sifa Maguro.
La situation devient inquiétante dans la ville de Goma. Plus de 10 personnes ont été tuées en l'espace d'une semaine, rapportent les sources locales. Un nouveau corps sans vie a été découvert hier au quartier Kahembe, un jeune homme d'une vingtaine d'années étranglé par des inconnus. Des réactions fusent de partout pour dénoncer cette insécurité et exiger plus de mesures des autorités provinciales. La société civile urbaine de Goma annonce des actions pour faire pression aux autorités. Journaliste en danger, Jed s'est dit également préoccupé par cette insécurité généralisée qui touche également les acteurs médiatiques. Il est urgent que les autorités provinciales, celles de la justice et de la société civile, se mettent autour d'une table pour discuter de cette question d'insécurité dans la ville de Goma et ses environs, déclare un activiste local. Le maire de Goma, quant à lui, rassure que des mesures sont prises pour assurer la sécurisation des habitants grâce notamment à l'opération Safisham Djua Goma. Goma Sifa Maguro, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale poursuit son séjour à Kisangani. Ce lundi, Guy Kabombo Mwadiamvita visite le camp lieutenant-général Lucien Bauma, un centre de formation des commandos. Mais hier, il a effectué une visite au camp d'instruction militaire Lukusa, à la rive gauche du fleuve Congo. Guy Kabombo a fait la ronde du centre pour se rendre compte des conditions de vie et d'apprentissage des jeunes recrues. Rappelons qu'à son arrivée samedi dernier à l'aéroport de Bangboka, il avait déclaré être venu en vue de s'enquérir de la situation qui prévaut dans cette entité sur le plan strictement militaire. À cet effet, il a eu des séances de travail avec le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangu, ainsi que des officiers et sous-officiers de cette juridiction. Tractation autour de la composition des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. L'UDPS, parti cher au président de la République, revendique la présidence de la majorité des bureaux de ces commissions au regard de son poids politique. L'ECOFIN, la PAJ, la Commission défense et sécurité, ainsi que celle de suivi et évaluation sont celles sur lesquelles le parti de Félix Tshisekedi ne compte pas transiger malgré l'opposition de ses alliés. Pour rechercher la paix et la cohésion au sein de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe a échangé vendredi dernier avec la délégation de l'UDPS. Michel Kifindangoy.
Au cours de ces échanges, le groupe parlementaire UDPS et Mosaïque
prend position pour la constitution des commissions permanentes et sur la répartition des responsabilités au niveau des bureaux de ces commissions. Pour le député Gilbert Kankondé, ces échanges avec le bureau visent à créer un climat d'harmonie et de cohésion au sein de l'Assemblée nationale.
L'UDPS a présenté au président de l'Assemblée nationale son approche à la répartition de ces commissions, la composition des bureaux de chaque commission.
L'UDPS revendique concrètement, si pas la présidence de toutes les 10 commissions permanentes, tout au moins la tête des bureaux de 7 de ces commissions, ce que n'approuvent pas les autres forces représentées à l'Assemblée nationale. Malheureusement, cette guéguerre occasionne une léthargie au niveau de l'Assemblée nationale. Tenez, alors qu'il ne dispose que de 40 jours pour examiner le budget 2025, les députés nationaux viennent de perdre 15 jours sans même la publication du calendrier de la session. Voilà pourquoi le président Vital Kamerhe recommande à tous l'amour et la confiance mutuelle, car selon lui, le président de la République attend plutôt du Parlement des résultats qui impacteront positivement le social des Congolais.
Et puis, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée provinciale du Kwilu? En tout cas, on ignore encore si la session de septembre, qui est essentiellement budgétaire, sera ouverte ce lundi 30 septembre comme prévu par la loi. Le bureau provisoire n'a encore rien précisé, alors que la Chambre est bloquée depuis le début de l'année, après avoir reçu une correspondance de la CENI l'invitant à tout suspendre et d'attendre la tenue des élections à Massimanimba. Ces élections n'ont jamais eu lieu, ce qui met en difficulté la session de septembre. Toutefois, le président du bureau d'âge, le professeur Oscar Ntsaman, entend appliquer la loi. Irène Mboma-Luzolo revient sur ce dossier assez confus.
C'est une situation confuse à l'Assemblée provinciale du Kwilu. À la veille de l'ouverture de la session budgétaire officiellement prévue le 30 septembre, rien n'est encore mis au clair jusque-là. La session extraordinaire ouverte en février pour l'installation du bureau provisoire, la validation des pouvoirs des députés et l'adoption du règlement intérieur n'a jamais été clôturée. Les membres du bureau définitif n'ont jamais été élus et toutes les activités parlementaires sont restées paralysées dans cet organe délibérant depuis plusieurs mois. Contacté à ce sujet, le président du bureau provisoire a déclaré qu'il attendait des directives de la hiérarchie. S'agissant de l'organisation d'une éventuelle plénière pour l'ouverture de la session budgétaire ce 30 septembre, le professeur Oscar Nsaman pense que la loi sera appliquée.
J'attends des instructions de la hiérarchie. Nous avons entamé le travail, mais il y a eu un suspense. On a dit de tout arrêter et attendre les élections de Massimanimba. Comme ces élections ne sont pas encore là, nous attendons, mais je crois que nous allons appliquer la loi.
Il s'y est de signaler que plusieurs députés provinciaux du Kwilu sont pour le moment hors de la ville de Bandundu, siège des institutions provinciales. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Autre sujet, interdiction formelle d'exploiter le diamant à côté de l'usine de captage d'eau de la régie des eaux à Lukelenge. Une décision du gouverneur de province du Kasaï oriental motive ces travaux risquent de perforer la nappe aquifère qui sépare la source du bassin de captage de la rivière Lukelenge et celle de Lubilanchi, selon lui. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les travaux d'exploitation artisanale de diamants sont interdits dans la partie comprise entre l'usine de captage de la régie des eaux à Lukelenge et le pont jeté sur la rivière Lubilanji. Le communiqué indique que ces travaux risquent de perforer la nappe aquifère qui sépare la source du bassin de captage de la rivière Lukelenge de la rivière Lubilanji, dont les eaux sales peuvent envahir le bassin supra de l'eau infectée qui sera consommée par la population. Elle expose aux maladies hydriques. Le gouverneur des provinces attire à cet effet l'attention de tous les services de sécurité de la division provinciale des mines et les responsables du comité provincial des diamataires d'être vigilants et de veiller au respect de cette disposition et le cas échéant dénoncer au plus vite que possible auprès de la direction de son cabinet. Rappelons que c'est depuis plus d'une année que la régie des eaux dénonce toujours l'exploitation illicite de diamants à quelques mètres de sa source du bassin de captage de la rivière Lukelenge. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Du Kasaï oriental, passons juste à côté à Kananga, où une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Une partie de la voirie urbaine sur 11 km entre le rond-point Notre-Dame et l'aéroport de Kananga sera réhabilitée par la société Safrimex. Les travaux ont été lancés par le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou. D'autres détails avec François Kadima.
Safrimex, qui a fixé ce délai, mène ses travaux pour lesquels les études ont été menées par Modulor sous la conduite du bureau central de coordination BCECO qui est en contrat avec l'exécutant. Ils vont s'exécuter sur deux axes séparés selon la planification de Safrimex. Un côté partira de l'aéroport de Kananga et un autre du rond-point Notre-Dame. Les deux feront jonction sans affecter la circulation ou les trafics pendant les déroulements de travaux. Lançant ces travaux, les gouverneurs de province ont indiqué devant la population venue assister, avoir pris l'engagement d'être sur terrain pour de telles actions qui visent la reconstruction de la province. Joseph Moïse Kamboulou. Nous sommes venus pour commencer les travaux. Nous ne sommes pas là pour rester dans le bureau. Je suis venu pour affirmer qu'après les démarrages des travaux sur Kalamambouji, c'est le tour de cette route qui mène vers l'aéroport. 11 km partant d'ici sur Notre-Dame jusqu'à l'aéroport de Lungando, ces travaux ont commencé. Face à cette route jonchée par des flaques d'eau et différents trous, la population souhaite voir ses travaux s'exécuter dans les délais pour rendre cette voie fluide. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets à impact visible pour les 100 jours du gouverneur du Maniema, Moussa Kabwankoubi Moïse a lancé samedi les travaux de réhabilitation du tronçon Binambito-Makala-Kailo. Ces travaux sont les résultats de la taxe conventionnelle initiée récemment par le chef de l'exécutif provincial. Vu l'état piteux des routes du Maniema, la population salue ces travaux qui seront exécutés par méthode IMO, par le fonds provincial pour l'aménagement des routes Fopar Maniema. Florence Kizalunga, reportage.
Aucune saison n'est favorable pour la route Kailo. Tous les usagers s'en plaignent. La population salue le début de ces travaux.
Nous, la population de Kailo, nous engageons à accompagner cette initiative donnée par le gouverneur de la province jusqu'à son aboutissement pour que nous ayons de bonnes routes.
Les gouverneurs demandent l'engagement et l'accompagnement de tout le monde pour la réussite totale de ces projets. Moussa Kabwankoubi.
Donc, le message, c'est d'encourager tout le monde, surtout les miniers, les cimentiers, tous ceux qui vendent la cigarette et tout le monde pour participer dans ces projets de reconstruction de notre province. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes avant de compter sur les autres.
Le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures garantit les Maniémiens, David Moukeba.
Il va sans dire qu'après ici, nous allons dresser un rapport à Kinshasa, à son Excellence le président public, qui entrevoit, n'est-ce pas, asphalter toutes les routes nationales. Et la RN31 étant aussi une route nationale, ne va pas rester en marge de ce programme. Et nous allons l'inscrire. Et nous continuons à le dire très haut que nous saluons la bravoure et le dynamisme de son Excellence monsieur le gouverneur.
Signalons que ces travaux prendront sauf imprévu 3 mois d'après l'ingénieur. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Province du Maniema encore, journée sans taxi-moto ce lundi matin dans la ville de Kindu. Les motards contestent le paiement de 1500 francs congolais par jour comme taxe conventionnelle pour la réhabilitation des routes. Le matin, aucun taxi-moto n'était en circulation. Les motards, par contre, se regroupaient à certains carrefours pour empêcher ceux qui voulaient travailler de le faire. Cette situation a mis à mal les élèves, les étudiants et même les fonctionnaires qui se servent des taxis-motos pour rejoindre leur lieu de travail. Ils réclament que ce montant soit revu à la baisse. Dans la province de la Tchopo, les inspecteurs et agents de l'inspection provinciale de l'éducation Tchopo 1 ont déclenché à partir de ce lundi 30 septembre un mouvement de grève et ce jusqu'à nouvel avis. Ils s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de discrimination liée à l'octroi de la prime pour fonction spéciale aux seuls inspecteurs et agents d'appoint des IPP de Kinshasa et du Congo central. Un extrait de leur déclaration lu par leur porte-parole, il est choisi par Jacques Mokonkole.
Nous, inspecteurs et agents administratifs d'appoint de l'inspection principale provinciale Tchopo 1, avons constaté ce qui suit. La mauvaise volonté manifeste du gouvernement de la République et de nos autorités hiérarchiques de l'inspection générale de diviser les corps des inspecteurs en octroyant la prime pour fonction spéciale juste aux inspecteurs province Kinshasa et Congo central tout en sacrifiant les autres. Face à cette mesure discriminatoire qui n'est rien d'autre qu'une pire injustice, nous, inspecteurs et agents de l'IPP Tchopo 1, décrétons la grève sèche en datée de ce lundi 30 septembre 2024. École sans inspecteur et c'est jusqu'au paiement de notre prime pour fonction spéciale avec effet rétroactif. Demandons au chef d'établissement de ne recevoir aucun inspecteur pendant cette période de grève.
Actualité internationale.
Aux États-Unis, c'est la désolation dans le sillage de l'ouragan Helene. Le dernier bilan, dimanche soir, 29 septembre, fait état de 30 morts confirmés en Caroline du Nord, ce qui fait monter le bilan global à au moins 91 morts d'après l'AFP. 5 États ont été touchés par les éléments déchaînés en Caroline du Sud, Floride, Géorgie, Caroline du Nord et Virginie.
L'invité.
Notre invité, c'est le rédacteur en chef de la Fondation Hirondelle, Christian Moulumba Kalumba, cette fondation privée suisse qui vient d'organiser à Bounia en Ituri une formation des journalistes et acteurs de la société civile sur la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Pourquoi cette formation? Quels peuvent être les dangers de la désinformation, surtout dans une zone sensible comme celle de l'Ituri? Christian Moulumba Kalumba s'entretient ici avec Ezekiel Mousalia.
Monsieur Christian Moulumba, bonjour.
Bonjour, monsieur Ezekiel.
Pour quelles raisons vous avez organisé cette sensibilisation à l'éducation aux médias en Ituri?
Ben écoute, dans les mots sensibilisation, on essaie de faire passer un message le plus large possible au public. Mais comme on ne peut pas atteindre tout le monde au même moment, nous nous sommes tournés vers les leaders communautaires de la province de l'Ituri, plus précisément ceux qui vivent à Bounia, pour une session d'éducation aux médias. Aujourd'hui, on constate que la plupart des messages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, ce sont des messages de haine en République démocratique du Congo, la désinformation, la mésinformation, la remplacer, la bonne information, celle du journaliste qui est allé sur le terrain, qui a collecté, qui a traité, qui a diffusé l'information. Aujourd'hui, on diffuse du grand n'importe quoi et la dangerosité des messages qui sont diffusés, c'est qu'elles peuvent amener à voir certaines personnes mettre le feu à la maison. C'est pour ça que nous avons tenu à échanger sur cette session sur l'éducation aux médias.
Quels peuvent être, selon vous, les dangers de la désinformation, surtout dans une province où la situation sécuritaire et la tension communautaire demeurent encore préoccupantes?
Mais on a vu, ça veut dire que la plupart de ceux qui partagent ces mauvaises informations, ces mauvaises rumeurs, c'est des personnes qui ont des intentions derrière, très souvent d'ailleurs. Et quand on se retrouve dans une zone comme celle de la province de l'Ituri, où il y a plusieurs groupes armés, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont choisi leur camp. Quand ils partagent ces genres d'informations, ben écoute, c'est pour faire peur, pour faire fuir la population de foi. Et c'est pour ça que je parle de mettre le feu derrière. Et la conséquence, on l'a vu à plusieurs reprises, à travers les mauvaises informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, ça crée du désarroi au sein de la population. Et à travers la session de formation que nous avons eue sur l'éducation aux médias, à travers les leaders communautaires, nous nous sommes dit au niveau de la Fondation Hirondelle, et surtout au niveau de sa structure au pays qui est l'Institut Hirondelle, c'est que eux, à leur tour, aillent sur le terrain. Ils sont en contact des jeunes, ils sont en contact de la population, qui puissent se partager et mettre en garde, carrément, ceux qui aiment, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, de leur dire, faites attention avant de partager un message, il faut bien le lire, il faut bien comprendre le message.
Les professionnels des médias ont été sensibilisés aux dangers de la désinformation. Alors, qu'est-ce que vous attendez désormais d'eux dans l'exercice de leur métier et pour les retours de la paix dans cette province?
Il faudra déjà que les journalistes réoccupent le terrain parce que nous avons l'impression que les journalistes ont cédé la place à ceux qui aujourd'hui écument les réseaux sociaux, que les journalistes reprennent leur place, qu'ils fassent leur travail, qu'ils aillent collecter l'information, qu'ils traitent cette information avant de la diffuser.
Monsieur Christian Mulumba, pensez-vous qu'on peut efficacement lutter contre la désinformation quand on connaît le niveau élevé du communautarisme dans une province comme l'Ituri, où les journalistes sont constamment en face d'un dilemme parce que ils sont issus de certaines communautés et tout. Ils doivent traiter peut-être l'information qui indexe leur communauté.
Mais qu'est-ce qu'on nous demande à nous journalistes de faire? C'est d'être professionnel. Et quand on est professionnel, ça veut dire qu'on est l'église au milieu du village. On ne choisit pas son camp en se disant que moi j'appartiens à cette communauté. Parce que si vous diffusez une information pour stigmatiser l'autre communauté, mais qu'est-ce que vous amenez à l'arrivée? Vous amenez à ce que ces gens se battent entre eux. On se retrouve avec des tueries sur le terrain, tout simplement parce que le journaliste a diffusé, disons, une mauvaise information. Le journaliste doit rester l'église au milieu du village, sachant que quand lui, il parle, il est écouté par les communautés, pas seulement par sa communauté, mais par les différentes communautés qui vivent, qui sont obligées de vivre ensemble dans la même province.
Christian Mulumba, merci.
Je vous dis merci aussi.
Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à Martha Sebujangwe, à Élisée Chikota et à Jean-Noël Mokondo.